Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1.
14h-15h.
La voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Cette semaine, je reçois l'écrivain du banal extraordinaire, Florent Oiseau, pour son nouveau roman. Nous visiterons la bibliothèque de Thierry Beccaro. Nous passerons chez Sandrine Babu, notre libraire. Et puis, Héloïse Goy fermera la boutique avec sa chronique jeunesse. Mais d'abord, donc, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre. Les fruits tombent des arbres, c'est le nouveau roman de Florent Oiseau chez Alary Éditions. Le pitch tient en deux phrases. Un homme d'une cinquantaine d'années, tendance solitaire, apprend qu'un de ses voisins est mort en bas de chez lui, devant l'arrêt Popincourt du bus 69 à Paris. Et le narrateur, le héros, donc constate que bizarrement, le monde continue quand même de tourner. Bonjour Florent Oiseau.
Bonjour.
Je suis content de vous voir en vrai parce que la dernière fois que vous êtes venu dans La Voix est libre, en fait, vous n'êtes pas vraiment venu puisque vous étiez au téléphone. C'était le premier confinement, le vrai, le dur. Si bien qu'on ne s'était jamais rencontrés, c'était pour les Magnolias.
Oui, exactement. Non. Plaisir partagé.
Étrange comme interview, une demi-heure au téléphone quand même.
Oui, puis pendant le confinement, moi j'avais eu tendance à commencer l'apéritif assez tôt. Et c'est vrai que j'ai découvert l'interview finalement en même temps que les auditeurs, je crois. Mais en tout cas, le rendu n'était pas trop mal et de votre part et de la mienne.
Voilà, donc les fruits tombent des arbres. Ça, on le savait avant de lire votre roman. Et je disais que Pierre, le héros, assiste presque à la mort de son voisin, Jean-Luc. C'est-à-dire que quand il arrive, il est déjà sous un drap avec les pompiers et tout. Il ne le connaissait absolument pas, donc il n'est pas dévasté particulièrement par cette mort. Simplement, ça le sidère que tout le monde fasse comme si tout était normal et que le bus 69, par exemple, continue son itinéraire.
Oui, c'est l'histoire d'un type, bon, c'est un peu toujours le cas dans mes livres, c'est un contemplatif, c'est quelqu'un qui est en marge de la société, enfin tout dépend de qui la trace, mais et du coup il descend de chez lui pour faire des courses et il se rend compte qu'effectivement qu'il y a un homme qui est en train d'être réanimé par le SAMU. Malheureusement, il n'y arrive pas. Et quand il remonte chez lui et qu'il regarde par la fenêtre qui donne sur la rue, il se rend compte que la vie a déjà repris, que cette petite foule qui s'était regroupée s'est évaporée dans les artères de Paris. Et lui, bon, je pense que c'est un prétexte pour se chercher lui-même, mais va commencer à arpenter cette ligne du bus 69 pour découvrir qui était ce voisin.
Alors, je voulais parler justement de voyage initiatique, mais ce serait un peu mentir, puisqu'on n'est pas dans l'Odyssée non plus. C'est-à-dire que c'est plutôt une sorte d'errance maîtrisée dans les rues de Paris, et le romanesque surgit de temps en temps au gré des rencontres. C'était ça l'idée ? Vous vous laissez guider par l'errance maîtrisée du personnage ?
Oui, parce que de toute manière, moi je crois que je ne sais pas encore le faire, peut-être que j'y arriverai jamais, parce que c'est quand même mon quatrième livre, et ce qui m'intéresse, moi, c'est pas tellement, mais dans les romans et dans la vie en règle générale, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement la grande histoire, sinon toutes celles qui gravitent autour. Et là, c'est le cas, en fait. Le bus et cette mort, c'est à la fois un prétexte pour le personnage et pour moi en tant qu'auteur, pour raconter tout ce qui se passe autour.
Et puis, mener des réflexions sur tout un tas de notions du quotidien et de la vie, comme la solitude, parce que donc justement, il traîne, Pierre, et à un moment, au milieu de la nuit, il voit une sorte de petite boîte de nuit, et les deux videurs le laissent passer plus par pitié pour son anorak que pour son allure. Il le laisse rentrer, et là, c'est une sorte d'immense vertige de solitude au milieu de la foule.
Oui, je crois que c'est l'histoire d'un type qui a jamais réellement trouvé sa place. Et ce qui est presque encore plus problématique, c'est qu'en fait, il en a conscience de ça. C'est-à-dire qu'il est très lucide sur ce qu'il est, sur ce qu'il n'est pas, et il a à la fois tendance à se perdre dans cette foule, mais c'est d'une certaine manière involontaire et c'est en même temps complètement maîtrisé. C'est-à-dire que c'est une manière pour lui de s'enfouir quelque part et de s'enfuir. Et d'observer ce qui se passe autour, et ça le construit beaucoup plus que de se pencher sur sa propre existence.
Mais justement, c'est un type, vous avez dit en marge, mais en fait c'est un type plutôt normal, quoi. Simplement il est très seul, même s'il est séparé et qu'il a une fille qu'il voit de temps en temps, mais il cherche quand même l'aventure, sinon pourquoi il rentre dans cette boîte de nuit ? Il sait bien qu'il va trouver que des gamins de 25 ans, et puis qu'il n'arrivera pas à obtenir un verre au bar qui sera forcément bondé. Qu'est-ce qu'il va chercher là-dedans ?
J'ai pas la réponse, mais je suis pas sûr que le personnage l'ait non plus. Tout est prétexte, en fait. Et chaque micro-aventure, chaque moment potentiellement romanesque du livre, c'est à la fois un mélange de heureux hasard et de choses complètement qui le dépassent, en fait. Lui, il flotte, c'est un flotteur nocturne principalement, et il se laisse guider au rythme du courant que lui impose l'existence.
Alors, justement, on ne peut pas dire qu'il alimente les péripéties non plus, parce que dans cette boîte, il va partir parce qu'il n'arrive pas à avoir sa bière, mais en fait, il est abordé par une jolie fille de 25 ans. Il ne sait pas trop pourquoi elle l'aborde. C'est une romancière, c'est complètement inespéré, et pourtant, il les conduit. Il ne veut pas qu'il se passe quelque chose, quand même.
Non, mais je crois qu'il a renoncé à tout ça. Et moi, de toute façon, je trouvais, d'un point de vue personnel, je trouvais trop facile qu'il se passe quelque chose entre les deux. Et pour moi, ça revêtait plus de choses qu'il ne se passe rien. Et lui, il est principalement désabusé en réalité. Il sait très bien que c'est pas une question d'envie, mais il est tellement à côté, il est tellement résigné qu'en fait il a même plus envie que sa libido lui évoque quoi que ce soit, parce que ce sera forcément vain et voué à l'échec.
Parce qu'on a l'impression, en parlant comme ça, si les auditeurs nous écoutent, qu'il se passe rien, mais en fait si, il se passe une foule de, vous avez dit le mot en fait, de micro-aventures sans arrêt quoi. C'est là où vous allez chercher le romanesque ?
Moi, je sais que je m'intéresse à tout ce qui n'intéresse pas les autres en règle générale, et je vois des éventuels personnages
et de la poésie et des scènes et du
romanesque dans le pas grand chose. Mais je me suis réellement interrogé là-dessus, et je me suis demandé si c'était une posture. Peut-être que je trouvais ça très romantique d'écrire sur le pas grand-chose. Et puis en fait, après, j'ai dressé un bilan sommaire de mon existence et de mon quotidien, et je me rends compte que non, je suis très fidèle à ce que j'écris. Et moi, c'est principalement ce qui m'intéresse. Et ça va peut-être paraître un peu pompeux, mais je crois que je m'intéresse à tout, sauf au monde dans son entièreté. Je m'intéresse vraiment à ce qui se passe dans un périmètre de 5-10 km², à ce que j'ai en bas de chez moi, à ce qui se passe dans le bistrot au coin de la rue, et à tous ces destins que je rencontre pas tellement en littérature ou dans le cinéma.
Vous trouvez aussi la beauté dans ces petites choses-là, quoi. On y revient dans un instant, restez avec nous, Florent Oiseau. On va discuter champignons japonais et œufs mayo. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment choqué dans votre livre, okay. Quelque chose, une provocation, je ne sais pas, on va en parler tout de suite.
Okay.
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre, toujours avec Florent Oiseau pour Les fruits tombent des arbres, chez Alary, l'histoire de Pierre, 50 ans à peine, séparé, père d'une fille, elle s'appelle Trieste, sa fille, comme la ville italienne. Il y a une raison à ça d'ailleurs dans le roman, vous lirez, mais donc on a vu que la vie pour lui n'avait pas beaucoup d'intérêt, à part justement sa fille, qui, alors, tout est absurde dans sa vision du monde et de la vie, franchement. Rien n'a d'intérêt pour lui, en fait, tout est grotesque, finalement, sauf sa fille qu'il rattache à la vie.
Oui, c'est là, moi, c'est là, je connais pas encore cette expérience que celle de la parentalité, mais...
C'est ce que je me suis dit, pardon, mais je me suis dit, et s'il dit ça, c'est que forcément, il a une fille, comme moi.
Et non, pas que je sache, du moins. Et c'est la première fois que je m'essaye à cet exercice. Généralement, ce sont toujours un peu les mêmes personnages dans mes romans, mais c'est la première fois qu'il y en a un qui est parent. Et je ne voulais pas avoir l'air de parler de choses dont j'ignore absolument tout, parce que dans mes romans, il y a le quotidien, il y a une forme de précarité, il y a la nuit, il y a les bistrots, ça je connais très très bien. Et le fait d'être parent, ça en revanche, j'en ignore toutes les composantes. Et je voulais essayer de dépeindre une histoire d'un père aussi et de sa fille, mais en parlant de ce que je crois connaître. Et donc j'ai essayé de dépeindre une relation qui est à la fois parfaitement décousue. Il explique qu'il peut se passer des jours sans qu'il ne pense à sa fille, mais qu'en revanche, dès qu'elle est présente, il y a quelque chose qui fait que ça colmate toute l'absence et que tout prend sens. Et effectivement, elle a 17 ans, et c'est finalement, je ne vais pas dire que c'est elle sa mère finalement, mais elle est plus, peut-être plus mature que lui, et en même temps, je crois qu'il y a un vrai lien entre les deux, parce que les deux savent avec une conviction intime qui est l'autre, et je crois que c'est ce qui compte dans toute relation.
Et ça, c'est l'absolu, ça, c'est l'extraordinaire, mais tout le reste est moyen ou banal. Et je lis page 43. J'ai dédié ma vie au moyen, au banal. Rien ne me charme plus qu'un banc. Rien ne me fascine autant qu'une station-service. Je vois plus de beauté dans un cendrier que dans un ciel d'été, plus de mélancolie dans une flaque d'eau que dans un air d'accordéon. Je préfère les petits feux d'artifice aux grands feux d'artifice, l'odeur de l'essence à celle du jasmin. Et le paradis, pour vous, ressemble à une laverie automatique. Ça va avec.
Oh, ouais, j'ai jamais eu de lieu de résidence qui me permettait d'avoir une machine à laver, ou alors il faut que je retire le frigidaire. Donc c'est vrai que la laverie, c'est un lieu que j'ai particulièrement arpenté depuis 12 ans. Et c'est pas très original. Hein. Il y a la station-service, la laverie, ce sont des lieux dans lesquels les romanciers aiment à se perdre.
Je vous garantis que c'est pas original, ces lieux-là.
Mais je sais pas trop. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est assez facile d'écrire là-dessus. Dans une laverie automatique, on rencontre quand même tout un tas de profils. Je trouve qu'il y a quelque chose de romantique dans le côté cyclique de cette machine. Moi, ce sont des genres de lieux qui m'intéressent et dans lesquels je trouve pas mal de matière pour écrire.
Et il y a quelque chose de méditatif, en fait, en regardant tourner son linge.
Ah ouais, complètement.
Il y a des grands élans poétiques de la part de Pierre, le narrateur.
Ouais, il a l'impression, quand il regarde son linge tourné, il a l'impression de voir des cerfs-volants perdus dans le ciel, quelque part sur un littoral normand. En tout cas, ce sont des lieux assez anodins, assez anonymes finalement, mais qui m'intéressent et dans lesquels je trouve matière à.
C'est aussi une réflexion sur le fait de vieillir. Le plus difficile, dit-il, quand vous vieillissez et que vous espérez tomber amoureux, c'est de se résoudre à accepter que l'autre ne vous aura jamais connu à vos 20 ans. L'autre ignorera combien vous étiez chevelu et insolent.
En fait, moi, j'écris toujours sur des personnages j'ai publié mon premier roman, j'avais 25 ans, aujourd'hui j'en ai 31. Et j'ai toujours écrit sur des hommes qui ont entre 40 et 50 ans. Alors peut-être quand j'aurai entre 40 et 50 ans, j'écrirai sur des hommes qui en ont 30, mais en fait, je ne crois pas. Moi, je ne fais pas tellement confiance aux souvenirs, alors que j'arrive totalement à me projeter sur quel genre d'homme je serais susceptible d'être dans quelques années. Et puis, je choisis aussi des hommes qui ont un rapport au temps qui est différent, parce qu'en réalité, un type de 25 ans ou de 30 ans qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie et qui se promène, je trouve ça banal. Enfin, c'est presque ceux qui savent très bien ce qu'ils veulent faire de leur vie qui m'inquiètent. Je trouve qu'eux sont problématiques. En revanche, une forme d'errance à 45 ans ou 50 ans, je trouve qu'elle en dit beaucoup plus. Et que...
Tout est possible.
Bah, plus tellement. Enfin, si.
C'est votre roman qui le prouve, quoi.
Oui, non, mais tout est encore possible. Mais je trouve que ça en dit beaucoup plus sur le rapport au temps et ce qu'a pu être une vie que d'être perdu à 50 ans. À 25 ou 30, il faut être perdu. Et c'est pour ça que ça m'intéresse de dépeindre des personnages plus âgés que moi, en tout cas. Parce que j'ai l'impression que ça en dit plus sur ce qu'ils sont et ce qu'ils ont vécu et là où ils vont ou ne vont pas.
Mais vous, où est-ce que vous trouvez la matière ? Vous en côtoyez ou c'est ce que vous vous imaginez être quand vous aurez 50 ans ?
C'est un mélange des deux, je crois. C'est un mélange des deux. J'ai toujours végété et j'ai toujours été dans des endroits où j'étais le plus jeune. J'ai fréquenté des atmosphères dans lesquelles j'avais pas forcément à être. Et je crois que ça m'a donné une forme de maturité que je n'ai pas tellement d'ailleurs à d'autres égards, mais en tout cas à cet endroit-là, je crois que ça joue beaucoup.
Il y a une vraie fausse histoire d'amour aussi dans le livre, avec de drôles de compliments. Et quand Pierre parle de la fille qu'il fréquente, il pense « sa bouche ressemblait à un joli pneu ». Qu'est-ce que c'est que ce compliment ?
Je suis très content que vous citiez cette phrase, parce que je suis pas content de toutes celles qui composent mon livre, mais en fait, je trouve ça très important quand on... C'est évidemment quand on décrit quelqu'un physiquement, quand on décrit un regard. Moi, par exemple, si dans un livre je lis « elle avait le regard bleu azur », le livre tombe systématiquement. Ouais. Si jamais un regard nous plaît et qu'il a le loisir d'être bleu, il faut le comparer à une Fiat Punto bleue. Enfin, il faut qu'il ait un bleu, le bleu du micro d'Europe 1. Il faut qu'il ait un bleu inédit, en fait. Et je trouvais que On peut tout dire sur une bouche, bon, qu'elle est pulpeuse, qu'elle est dessinée par Michel-Ange. Bon, ça m'intéresse pas tellement.
Les charnues, en général, on dit. Ouais.
Charnues, bon, ça me fait chier, en fait.
Il y a comme ça des épithètes qui vont automatiquement avec des mots, quoi.
Et je trouve
rentrer
que ça...
argenté, des choses comme ça.
Voilà, mais...
Ou course échevelée, forcément.
Putain, vous en avez plein en stock. Mais moi, ça m'intéresse pas. Si mon personnage est touché par la bouche de cette jeune femme, faut qu'il la décrive avec des mots qui n'ont jamais été utilisés pour la décrire. Et je pense que personne n'a... Alors, je suis peut-être très présomptueux là, mais je pense que personne n'a jamais décrit une bouche en la comparant à un joli pneu. Il n'y a pas de joli pneu, en réalité, il n'y a que des pneus. Mais je trouve je trouve ça assez visuel, moi, je le vois, cette bouche qui ressemble à un pneu, mais une bouche qui ressemble à un pneu, ce n'est pas un compliment. Un joli pneu, en revanche, là, je crois qu'on suit comme tous.
C'est la réception du compliment qui peut être éventuellement problématique.
Ok.
On fait une pause, je n'ai pas encore eu le temps de parler de ce qui m'a choqué dans ce livre, mais on va venir dans un instant.
La voix est livre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre, toujours avec Florent Oiseau pour Les fruits tombent des arbres chez Alary. C'est l'histoire donc de Pierre, une cinquantaine d'années, qui erre comme ça dans Paris à la recherche peut-être de lui-même. Il cherche pas, il n'a pas vraiment un objectif très précis. En revanche, il adore par exemple regarder son linge tourné dans la laverie automatique. Et à un moment du roman, il regarde son linge et débarque dans la laverie une actrice célèbre, on n'a pas son nom, mais enfin, actrice célèbre, un peu has-been, qui cherche quelqu'un qui saurait comment faire une mayonnaise, parce qu'elle a besoin de faire une mayonnaise d'une manière très très urgente et elle ne sait pas faire. Il se trouve que lui sait très bien comment faire, alors il la monte à la fourchette, avec une pointe de vinaigre de Xérès, ça d'accord, pourquoi pas. Mais les œufs durs, il les fait cuire 10 minutes avec départ à froid. Ouais, vous êtes complètement fous. Moi, j'ai consulté Olivier Pouls, notre chroniqueur gastronomique à Europe 1, et c'est bien ce qui me semblait. Les œufs durs, c'est 8 minutes 40, départ eau bouillante. C'est tout. Sinon, ce sera des œufs mollets. Hein. Avec ça, vous vouliez provoquer.
Non, moi la règle, parce qu'il y a une règle, là on rentre dans un débat très pointu, et désolé pour les auditeurs du dimanche, je cherchais peut-être plus de légèreté, mais il y a une règle, c'est le 3-6-9 avec les œufs.
Eau bouillante, ouais. 3 minutes pour les œufs à la coque, 6 minutes pour les œufs mollets et 9, mais en fait un petit peu moins pour les œufs durs.
Sauf qu'il y a une raison à cela, Nicolas, c'est qu'elle, elle est pressée. Et que quand on sort des œufs du frigidaire et qu'on les met directement dans de l'eau bouillante, il y a un risque que la coquille casse. Évidemment que normalement, il faut les laisser à température ambiante un petit peu, mais là, il y a une raison qui est liée à l'urgence, et c'est pour ça que mon personnage précise le départ à froid. Mais on en parlera avec votre ami.
On ne se mettra pas d'accord aujourd'hui. Mais justement, on va continuer à parler cuisine. Il y a beaucoup de questions de champignons japonais et d'omelettes d'ailleurs dans le roman. C'est vrai que la cuisine intervient souvent dans le roman.
Ouais, dès que je ne sais pas trop quoi raconter, c'est toujours je me dis, bon, je vais lui faire bouffer quelque chose. Et j'essaie que ce soit toujours très absurde. Alors, dans les Magnolia, il y avait un sandwich au flageolet qui était une recette dont on m'a beaucoup parlé. J'ai reçu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux de gens qui ont essayé, qui m'ont dit, c'est pas trop mal, c'est un plat fédérateur. Mais ça, c'est presque un prétexte en réalité. C'est que généralement, il y a des moments où je ne sais pas trop quoi écrire et je me dis, tiens, je vais les faire manger.
Mais alors, moi, je voudrais parler de votre cuisine d'écriture, si vous voulez bien nous ouvrir la porte des coulisses et nous dire si oui ou non vous avez une discipline d'écriture. Est-ce que vous avez décidé que tous les matins, de 9h à midi, il fallait faire tant de pages que, je ne sais pas. Est-ce que vous en avez une ? Ça
alors,
m'étonnerait.
De 9h à midi, déjà, ça, c'est pas tellement mon créneau horaire. J'en ai pas et je crois que paradoxalement cette absence totale de structure me structure. À chaque fois que j'essaye de m'imposer le fait d'écrire, j'ai l'impression que c'est jamais bon. Donc j'essaye de faire en sorte que ce soit quand même toujours une sorte d'envie, de, je peux parler de pulsion ou de fulgurance, mais j'ai envie que ça reste quand même quelque chose de spontané et à chaque fois que j'essaye de m'astreindre à une forme de discipline, j'écrivais que des trucs sans aucun intérêt. Enfin, donc non, honnêtement, il y a quelque chose d'assez inexplicable. Je ne sais pas trop. J'écris vraiment quand j'en ai envie, quand il y a des choses qui font que, quand je suis sorti et que j'ai eu l'impression de capter des choses que j'ai besoin de retranscrire en rentrant. Mais je n'ai pas du tout de discipline, d'emploi du temps, régie par un besoin d'écrire tant de mots à tel moment.
Et est-ce qu'il faut un contexte particulier du silence ou de la musique ? Est-ce que vous écrivez à l'ordinateur, au stylo, sur un carnet, dans un bistrot ou pas ?
Je vais me mettre du monde à dos, mais pour moi, les mauvais écrivains sont ceux qui écrivent au café.
Non, c'est pas vrai. J'ai plein de contre-exemples.
Mais
dites-moi pourquoi.
Parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très cérémonieux, de très. Il y a une posture de tiens, je vais prendre mon ordinateur et puis je vais regarder l'horizon et je vais montrer au serveur que je suis en train d'écrire des choses très importantes sur ce qu'est la vie et le caractère existentiel des choses. Moi, j'écris chez moi et.
Pourtant, vous adorez les bistrots.
Oui, mais.
Vous en parlez à longueur de roman.
Oui, mais promis, je ne suis jamais trop en état d'écrire quand j'y suis. Mais non, moi, j'écris chez moi. Et j'aime bien le bruit, la rumeur de la ville. Mais en revanche, pas de distraction extérieure. Je n'arrive jamais à écrire plus d'une heure en réalité. Donc, je fais plein de pauses. Je regarde Affaires conclues avec Sophie Davant sur la 2. Je vais fumer une cigarette. Je passe un coup de téléphone. Donc, jamais plus d'une heure chez moi. Et non, pas de musique, parce que ça me disperse beaucoup. Donc,
et vous n'avez pas de mauvaise conscience quand vous n'écrivez pas pendant plusieurs jours parce
non.
que c'est quand même votre métier, c'est ce qui vous fait vivre.
Ouais, non, mais
vous en publiez un par an, il faut quand même les sortir, les 300 pages.
Ouais, alors c'est tous les 18 mois et c'est 240 pages. Merci Nicolas, c'est chouette de grossir un peu mon CV. Mais, mais je suis toujours très surpris parce qu'on me dit oh, vous avez l'air très en dilettante, vous jouez un peu la carte de celui qui fait pas grand chose. En réalité, vous êtes quand même assez prolixe et je suis toujours obligé de m'excuser parce que je me.
Parce que c'est la réalité.
Mais non, je vous assure que non, je passe tellement de temps à fixer le plafond, ne rien faire.
Bah oui, c'est ça, oui. C'est la réalité, vous le faites un peu en dilettante et ça vous va comme
alors,
ça.
Non, par contre, je m'investis énormément dans. C'est-à-dire que moi, alors, je ne vais pas dire que la dernière fois, j'ai dit que je l'avais chevillé au corps. Après, je m'en suis beaucoup voulu. Je crois que c'est...
Mais, parce que l'expression est toute faite.
Oui, parce que c'est pas vrai. Enfin, j'ai d'autres choses chevillées au corps, mais en réalité, je pense à l'écriture tout le temps. C'est-à-dire que j'ai énormément de mal à être concentré. Je la vois partout. J'ai toujours l'esprit qui divague. C'est très chiant pour les gens qui vont déjeuner ou enfin dîner ou boire des coups avec moi parce que je pense tout le temps à l'écriture systématiquement. Mmh. En revanche, l'acte d'écrire, moi, je le trouve assez fastidieux. Ce que j'aime bien, c'est quand le livre est écrit et que je suis invité à déjeuner et que mais
vous préférez avoir écrit
qu'écrire. Ah mais complètement. Et ce qui est même très chouette, c'est d'avoir écrit puis ensuite de faire une sorte de travail de d'embaumeur ou de médecin légiste et de retravailler le texte. L'acte d'écrire en lui-même, je le trouve assez pesant. En revanche, l'écriture, je l'ai tout le temps en moi et j'y pense systématiquement.
Elle serait comme qui dirait chevillée au corps. Quoi.
Elle serait chevillée au corps.
Merci Florent Oiseau, vous restez avec nous si vous voulez bien dans un instant visite de bibliothèque. Nous partons chez Thierry Beccaro, oui, l'animateur, fou de poésie. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1.
La voix est libre.
La voix est libre avec Florent Oiseau, Les fruits tombent des arbres. C'est chez Alary, c'est son nouveau roman. Et il est l'heure de visiter une bibliothèque. Thierry Beccaro, l'animateur de Motus, 40 degrés à l'ombre, publie un livre, Ma résilience à moi, chez Plomb. Il y évoque son enfance difficile. Le mot est faible et j'ai saisi l'occasion pour aller voir de quel livre il se chauffe. Bonjour Thierry Beccaro.
Bonjour Nicolas.
Merci de nous accueillir chez vous.
Bienvenue dans mon humble demeure.
On est à un sixième étage, dans un quartier tranquille, avec une jolie petite terrasse.
Ouais,
qui doit être agréable l'été.
Superbe. Et puis un parc. Et ça, pour moi, c'est important parce que j'aime bien voir les saisons passer.
Ah oui.
Ouais. J'aime bien voir les arbres se transformer, changer de couleur.
C'est pour ça que le canapé est en face de la baie vitrée. C'est pour voir comme une télé les saisons passées.
Ouais, j'ai tout fait. C'était pas dans ce sens-là normalement, mais j'ai tout inversé. Non. Mais on a cette chance d'avoir une belle vue avec une école à côté, avec une crèche, avec les enfants qui jouent. Enfin, c'est très. Il y a un peu de mélancolie dans ce que je te raconte, mais il y a un petit peu de ce que je suis et peut-être même dans mes lectures, dans mes rencontres.
Alors, on ne se connaît pas, mais tu m'as dit, on se tutoie. Et
ouais.
En fait, moi, c'est 40 degrés à l'ombre et tout, c'est toute ma jeunesse.
Alors,
j'ai vraiment très envie de te tutoyer, donc je vais le faire exceptionnellement à l'antenne.
Avec plaisir.
On se tutoie, mais on ne se connaît pas, il n'y a pas de...
Voilà.
Ça commence très bien, on est dans le salon. Et juste en entrant, il y a la porte d'entrée qui donne sur le salon et on arrive devant une pile de livres. Et en fait, ce n'est pas vraiment une pile de livres, c'est un meuble qui permet de tenir les livres les uns sur les autres.
Ouais,
et ça donne l'impression d'une colonne de livres gigantesque de 2 mètres de haut.
C'est-à-dire, quand tu es devant, comme ça fascine les amis qui viennent, comme ça, et qui n'ont pas vu la colonne derrière et qui se disent, mon Dieu, mais comment font les livres pour tenir ? Non, mais on est très fort avec ma femme, mais on n'arrive quand même pas à faire ce genre de tour. Comme si c'était il y avait un jeu comme ça où il fallait monter une tour le plus haut possible. Voilà, tiens, tu vois la magie du rangement juste en bas. Tu vois.
Ah, la magie du rangement, oui. Marie Kondo. Et alors, il y a des livres absolument partout, par terre,
alors,
sur
écoute,
des meubles.
Je t'en propose un tout de suite parce que ça, c'est fait partie de ce que j'aime par-dessus tout, sont les correspondances. Ah. Et là, je tombe sur la correspondance passionnée d'Anaïs Nin et d'Henry Miller. Mmh. Voilà. Alors, je n'ai pas forcément tout lu.
Les deux sont assez chauds. Hein.
Ouais. C'est assez. C'est passionné. Voilà, c'est passionné. Alors, j'ai pas tout.
Et juste
tout
en dessous, il y a Camus Casares, la correspondance aussi. Que j'ai lu aussi.
Que j'ai lu.
Beaucoup plus sentimental.
Et incroyable. Mais c'est un pavé. Mais. J'aurais bien aimé, je ne sais pas, je mets ça dans un coin, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien interpréter sur scène, la correspondance de Camus et Casares. Mais je crois que ça a déjà été fait.
Mais oui, avant de commencer, tu m'as dit que tu aimais particulièrement les correspondances. Pourquoi ?
Parce que je trouve, par rapport à ce qu'on peut vivre aujourd'hui sans faire vieux schnock, je trouve qu'il y a une élégance quand même dans l'écriture, dans le côté passionné que les êtres se partagent. Même la correspondance entre Piaf et Cerdan que j'ai lue, elle est passionnée, elle est parisienne, on sent qu'il y a de la boxe, on sent qu'il y a une vie difficile du côté de Piaf et de Cerdan, mais tout à coup la correspondance fait que c'est la passion qui l'emporte. Ce sont les mots d'amour qui finissent par passer au-dessus.
Oui, c'est les correspondances amoureuses, ce que tu préfères, en fait.
Oui, mais j'ai lu celle de Théo Van Gogh et de Vincent Van Gogh. C'est encore autre chose. Il y a de toute façon... Je n'ai pas beaucoup lu de correspondances où on s'envoie des noms d'oiseaux. Mais... Je lis les correspondances de Rilke, par exemple, qui est pour moi une référence absolue. Avec
l'être à un jeune poète qui a donné des vocations pour plein d'écrivains aujourd'hui, qui ont lu ça un jour et qui se sont dit, moi aussi, j'y arriverai.
Des écrivains, mais aussi que j'incite mon fils, je dis, lis les lettres à un jeune poète, parce que il y a dans ces âges-là, l'âge de mon fils, 19 ans, 20 ans, il y a toutes ces références à la solitude. Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on fait de sa vie ? Qu'est-ce qu'on fait de ses amours ? Est-ce qu'il faut s'y perdre ? Est-ce qu'il faut rester prudent ? Est-ce qu'il faut rejeter la solitude ou comme disait Moustakis, en faire une amie ? Enfin, voilà, moi, je suis... Et il y a une élégance... comme chez Proust, j'ai pas lu tout Proust, mais je trouve qu'il y a, je me dis, mais enfin, il y a une espèce de clairvoyance. Là, on va toucher à un domaine qui nous emmène un peu plus haut, mais il y a une élégance dans cette écriture, fidèlement vôtre à la fin, votre chair. Je trouve qu'il y a quelque chose. Je vais peut-être paraître vieux jeu, mais c'est vrai qu'on n'a plus avec cette espèce de raccourcis.
Tu as beaucoup écrit et attendu des lettres d'amour ?
Je n'en ai pas reçu beaucoup. Je pense que j'en ai peut-être écrit un tout petit peu plus, mais je vais être très honnête, je crois que je me suis pas mal servi chez les autres. C'est vrai que quand j'étais adolescent, le nombre de poèmes d'Aragon que j'ai pu envoyer pour faire passer un message...
Sans signer Aragon.
Mais c'est vrai que c'est une des plus simples choses. Les jours sont des soleils grimés. De quoi la nuit rêve les roses, tous les feux s'en vont en fumée. Que sais-tu du malheur d'aimer ? Et là, je me suis dit, que sais-tu du malheur d'aimer ? Peut-être que ça devrait passer, quoi. Mais je devais être un petit peu trop sentimental. Et parfois...
Par cœur, donc.
Ah oui. Je crois que ça a été une des grandes révélations, Aragon, pour moi. Grâce à Ferrat.
Ah oui.
Et je crois qu'il a fait un bien fou à toute une population, Ferrat. parce que Ferrat fait découvrir Aragon à travers un personnage qu'on imagine plus politique, plus militant, et tout à coup, il se sert d'Aragon, qui est lui aussi assez militant, communiste, etc. Mais les yeux d'Elsa, tout à coup, des gens simples qui n'ont pas forcément étudié beaucoup, vont découvrir Aragon. Ferrat va mettre une musique autour. Et tout à coup, ça va devenir incroyable. On va laisser la musique de côté. Et tout à coup, on va s'intéresser au texte de Louis Aragon. Enfin, voilà. Tu vois comment on peut parler de littérature comme ça, en se laissant promener, suivant des chemins.
Beaucoup de classiques, hein, Margaret Atwood, Christian Bobin, et c'est pas le premier que j'aperçois. Il y a une ferveur pour Christian Bobin, ouais, dans cet appartement.
Ça me fait un bien fou. C'est surtout la ferveur pour Christian Bobin, c'est moi. Hein. C'est moi.
Pourquoi ?
J'ai interviewé beaucoup de monde, hein, dans ma jeune carrière, mais j'ai pas eu la joie d'interviewer Christian Bobin, et ça a été vraiment une découverte pour cet écrivain qui habite au Creusot, qui a une plume, qui a une espèce de tendresse, et puis une acuité sur le monde. Je vous recommande un texte qu'il a écrit sur la télé que je n'aurais jamais osé lire, parce que ça m'aurait valu quand même quelques soucis. Une espèce d'acuité sur le monde de la télé. Waouh.
Plutôt négatif alors.
Ouais, c'était plutôt c'était plutôt l'écriture de quelqu'un qui vit chez lui dans le Creusot et qui s'imprègne de sa vie amoureuse, de la vraie vie des gens, quoi, avec beaucoup de poésie. C'est des nouvelles en général, hein. Et le dernier que j'ai acheté, c'est un léger bruit de balançoire. Je suis assez passionné par le
bruit de balançoire
et par la balançoire. Ouais, effectivement, mais c'est la force de Bobin, c'est que il nous emmène toujours dans quelque chose et de mélancolique et d'enfantin.
C'est la poésie.
Ouais, c'est de la poésie. Ouais.
Et les titres, alors, t'as une névrose particulière?
Je peux dire que c'est une névrose, mais c'est vrai que je pense qu'on pourrait, on pourrait faire tout un spectacle à partir de titres.
C'est une bonne idée.
Tu vois.
Par exemple, c'est quoi les titres?
Alors j'en avais écrit quelques-uns comme ça, les aiguilles à l'envers, le temps qui ne passe pas, qu'est-ce que j'avais écrit? J'avais fait ça pour le livre que je viens de publier. J'avais donné toute une série de titres.
Des titres de romans qui n'existent pas, en fait.
Voilà, c'est ça. D'accord. C'est ça. Absolument. Voilà, La colère sourde, La table des matières, Le souffle long, le zèbre rayé des listes, Le zoo abandonné, Les réveils douloureux, Le cœur qui bat, Les mauvais gestes, La vie de Patachon, Les cris d'ailleurs, Pas tout de suite, Les trains qui passent, Le couple aveugle, L'heure des lâches, La girouette du diable, On finira par trouver, Le désespoir des optimistes, Le vent qui recoiffe, Les éléphants vus d'en haut, Le fil des étoiles, Les îles qui s'effondrent.
J'aime beaucoup Les éléphants vus d'en haut, mais c'est quoi? C'est des romans que tu voudrais écrire?
Ça, c'est des... Parce qu'à partir de
c'est
là...
C'est une idée qui...
Oui, voilà. Papa,
c'est une histoire qui se développe rien que par le...
Ouais.
Pas mal.
Papa s'absente toujours un peu. Je trouve que ça ferait un titre... On attendra que les beaux jours reviennent, le verre à moitié vide, les champignons poussent en silence.
Ah, ça fait très Christian Bobin.
Ouais, ouais. Les arbres penchés, il y a des oiseaux qui chantent le soir.
C'est génial comme hobby de créer des titres.
Ah, c'est pas mal. Bah, il en faut quelques-uns pour faire 300 pages. Hein.
T'as pointé La vie secrète de Walter Mitty qui était dans le porte-carte postal. Pourquoi ce livre-là en particulier?
C'est drôle parce que... J'ai vu le film. J'ai vu le film.
Avec Ben Stiller.
Oui. Et je trouve que le thème me correspond un petit peu.
C'est quelqu'un qui a une vie banale, mais qui rêve sa vie, en fait. Et on assiste à ses rêves qui se mélangent à sa vie banale.
Oui, et je me suis souvent... Tu sais, je termine le livre là que je viens de publier sur ma résilience. Je termine. La dernière phrase, c'est merci à toutes celles et à tous ceux qui m'ont considéré comme un soleil quand je me percevais comme un nuage. Et je trouve que... J'espère que ça parlera à beaucoup d'autres avec la vie un peu compliquée que j'ai menée, avec le sac à dos que j'ai sur les épaules. Je me suis souvent... où on m'a laissé entendre, tu vois, ça c'est ce qui pourrait être la maltraitance psychologique, on m'a laissé entendre que j'étais courageux mais pas téméraire, quoi. Et ça, c'est ce qu'on appelle les phrases, comme on dit dans les accords Toltec, la phrase impeccable, tu vois. Bon, de toute façon, j'y arriverai pas, de toute façon, je suis un bon à rien. C'est des choses comme ça qu'on t'inocule, et tu finis par y croire, tu finis par t'en persuader. Et je trouvais ça bien que Walter Mitty, tout à coup, devienne un héros. Et moi, quand mon père a pointé un fusil sur ma mère, ce que je raconte dans le premier livre, ça a été un choc terrible pour moi, c'est une sidération incroyable. Et j'ai regretté pendant des années de pas avoir pris un vase, tu vois. J'ai dû avoir fracassé sur la tête, tu sais. Et je me suis senti mais minable. Et puis, c'était une mauvaise vision des choses. Puisque dans une interview que j'ai faite sur une chaîne d'info continue, un soir à 19h, vient des journalistes qui m'a dit à la fin de l'émission, il y a juste quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord avec vous, Thierry. Donc je commençais à blêmir, quoi. Il me dit, je crois que vous pouvez vous considérer comme un héros. Et là, ça m'a bouleversé, quoi. Voilà, parce que voilà, on peut devenir Walter Mitty.
On est rarement un bon spectateur de soi-même.
Ça, c'est vrai. Ça, alors là, Nicolas, je suis d'accord, puisque je suis sur scène en ce moment. Là, je suis au théâtre de la Tête d'Or à Lyon, et je joue dans Sans Rancune, ce qui pourrait être un bon résumé du travail que je fais par rapport à ma vie et à mon parcours. Mais j'ai un parcours sur scène. Et j'oublie et je ne me rends pas compte de ce que je fais. Et il semblerait que ça plaise. Et donc, je suis vraiment le plus mauvais témoin de ce que je propose aux spectateurs.
Je vois là un livre d'un auteur que j'adore qui s'appelle O. Henry.
Ouais, c'est la théorie du chien.
Un écrivain américain qui est connu pour ses nouvelles avec des fins qui renversent tout. Et aux États-Unis, il n'est pas connu en France, mais aux États-Unis, on parle d'une fin à la O. Henry. Tellement c'est le génie de la fin, quoi.
L'étrange est bien plus ordinaire que l'inattendu.
Voilà.
Ah, oui, voilà, c'est un bon résumé. L'imposture, mais surtout le destin, cette fatalité qui est toujours perçue par O. Henry.
Vous aimez
c'est incroyable parce que moi, c'est l'imposture. Voilà, ça fait partie des mots qui me MOTS et MAUX peut-être.
Mais vous aimez les fins comme ça qui renversent tout le texte qu'on vient de lire.
Oui, quand ça peut surprendre. Mais j'aime surtout moi les. Je voulais dire que le mec qui parle que de lui, je ramène tout à moi, mais
pour ça. Hein.
Dans ce que j'écris, par exemple, je dis mais qui suis-je pour raconter ça, quoi. Le fameux syndrome de l'imposteur. Et ça c'est quelque chose qu'il faut arriver à se s'en départir, quoi. Parce que alors les autres ont toujours la gentillesse de te dire mais attends mais c'est bien au contraire que tu racontes ça puisque toi tu l'as vécu et ta notoriété va permettre d'aider les autres et tout ça. Donc,
Justement, la notoriété et tout, est-ce que ça t'a aidé ou ça a été au contraire assez lourd à porter d'être connu dans la rue sans arrêt, d'être une vedette, quoi,
Non.
C'est un gage de succès quand même, d'une certaine manière.
Non, jamais de la vie, je dirais que ça m'a coûté. Au contraire, c'était que du bonheur. Moi, je savais pas, moi, quand j'étais à l'école, qu'on me demandait ce que je voulais faire. Vraiment, je ne savais pas qu'aujourd'hui, là, je serais avec toi pour te présenter les livres que j'aime, un petit peu de ma famille, recevoir toutes les gentillesses que tu veux bien m'accorder par rapport à mon parcours. C'est quelque part ce qu'on recherche quand on a le parcours d'enfant qui est le mien, c'est-à-dire que on recherche beaucoup d'amour. Et je pense avoir reçu et recevoir encore de la part des gens que je croise dans la rue beaucoup de tendresse et de gentillesse. Mais je crois que, comme disent certains, mais tu ne l'as pas volé, quoi. C'est-à-dire que j'ai essayé, moi, de faire un parcours qui donne du plaisir aux gens, qui donne du bonheur aux gens, qui fasse que quand ils me croisent dans la rue, qu'ils aient pas envie de faire demi-tour, quoi.
Et tu te souviens quand ça a commencé, ça, les premières fois où t'es sorti dans la rue et que
il faut du
tu
temps.
T'es dit ah bah tiens ça y est, je suis une personnalité connue.
Le danger, il est là, quoi. C'est pas immédiat, il faut du temps. C'est ça que j'essaie d'expliquer, ou que je voudrais expliquer à celles et à ceux qui commencent là en ce moment à faire de la télévision et qui explosent en 2 semaines, 3 semaines. C'est long. Pour que des gens se retournent ou vous courent après dans la rue. Mais pas comme je dis, quelqu'un m'a dit « Oh, bien, c'est un jeune, dis donc !» Mais j'ai dit « Mais attends, mais qu'est-ce que tu crois ? Il n'y a pas que les personnes âgées qui me courent après. » D'abord parce qu'elle n'arrive pas à me rejoindre. Non, je dis ça en riant, mais voilà, j'ai tout un panel de... Ben, il faut 35 ans, quoi. Mais ça a vraiment commencé à Matin Bonheur, quoi. Au bout de 6, 7 mois de Matin Bonheur, quand l'émission a marché. Puis après, Motus, quoi.
Donc, de début des années 90.
Ouais, 90.
Alors, il faut absolument qu'on parle aussi du théâtre, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de livres, et sur Molière, et sur le théâtre, et des pièces. C'est important, le théâtre, pour toi. Là, tu joues en ce moment à Lyon.
Là, je suis au théâtre de la Tête d'Or, absolument, je joue.
La télé, c'était un peu du théâtre aussi, d'une certaine manière ou...
Je dis souvent que ça peut aider, absolument. Le fait d'être comédien m'a certainement aidé à me sortir parfois de situations, puisque du direct, j'en ai vécu pas mal. Hein. Télématin, 40 degrés à l'ombre, etc. Donc, tout ça, il y a parfois des situations qui font que... il faut être prêt à un petit peu à jouer la comédie ou à faire un peu d'impro. Moi, j'ai le petit Molière. J'ai un livre auquel je tiens.
Un tout petit livre.
Oui, qui était certainement vendu par la comédie française. Donc c'est un petit Molière et c'est Molière et les réductions, Molière et l'amour. Enfin voilà, il y a toutes les Molières et la société. Ah, ouais. Voilà, ça c'est. Donc, Molière et ses répliques, voilà.
Alors, il y a aussi énormément de bandes dessinées, beaucoup de Gaston, beaucoup de Franquin.
Ah, Franquin. Franquin, c'est pour moi, c'est dans mon panthéon, c'est vraiment l'un des...
Pour Gaston ou pour les idées noires ?
Pour les idées noires, parce que Franquin, je pense, était un peu dépressif. Mais pour le travail sur Gaston Lagaffe, j'avais fait une rédaction quand j'étais au lycée. J'avais fait un... On avait le droit de faire un texte libre et j'avais écrit un texte sur Gaston Lagaffe. Pourquoi j'avais dit pourquoi Gaston Lagaffe était invirable.
Pourquoi?
Pourquoi là? Parce que sa personnalité faisait que on pouvait et le détester par toutes les conneries qu'il pouvait faire, mais aussi par sa présence et par l'humanité qui était la sienne et par cette espèce de distanciation qu'il y avait par rapport aux autres. Et j'avais une bonne note. Hein. Ah ouais.
Et c'est l'anti-idée noire, en fait Gaston Lagaffe.
Ouais,
c'est la joie, quoi, Gaston Lagaffe.
C'était l'insouciance. C'était aussi une façon pour Franquin de se rebeller, à mon avis, contre l'établishment.
Merci beaucoup, Thierry Beccaro.
Bah, c'était un plaisir.
Pour cette visite de vos livres et donc un peu de votre vie, quand même, parce que c'est assez lié.
Je pense, surtout la pièce dont nous sommes aujourd'hui, dans laquelle nous sommes. Voilà. Et puis, pour terminer, bah voilà, il y a quelque chose qu'il faut que j'arrive absolument à acquérir avant de quitter ce vaste monde. C'est l'art de la joie.
L'art de la joie.
Voilà.
Bel objectif. Merci beaucoup, Thierry.
Merci, Nicolas.
À bientôt.
Retour à Europe 1 et je rappelle Ma résilience à moi chez Plomb, c'est le livre de Thierry Beccaro. Jean Oiseau, vous avez entendu Thierry Beccaro qui fait des listes de titres. Ouais. C'est fou ça. Les éléphants vus du dessus. Et vous, comment ça vous intéresse les titres, j'imagine, c'est un truc qui vous... Ou alors c'est pas quelque chose d'important, vous y pensez pas pendant toute l'écriture, ou est-ce que vous l'avez avant de commencer le roman ?
Non, moi je suis très mauvais pour les titres. Je trouve que c'est un exercice hyper délicat et donc je suis admiratif de Thierry Beccaro qui a toute une liste de
mais il
n'a
pas
titres,
les romans lui.
Ouais, mais c'est le titre qui est important. Après le reste, il faut broder, mais non moi j'ai beaucoup de mal. Je trouve que c'est un exercice assez compliqué que de trouver un titre. Et
comment, c'est votre éditeur qui le trouve? C'est vous en écrivant, il y a une phrase qui vous
plaît. On révélera pas tout, mais en tout cas, il n'y a jamais une fois où il m'a dit tiens, ça c'est un bon titre. Alors parfois il m'a fait creuser, parfois on a creusé ensemble, mais en tout cas, on est assez d'accord là-dessus sur le fait que je suis pas bon du tout au niveau des titres. Ça viendra peut-être.
Comment sont rangés les livres chez vous ? Est-ce qu'il y en a d'abord ?
Oui, il y en a quelques-uns. Et là, j'ai l'impression de me mettre à nu, mais en plus, ils sont rangés par ordre alphabétique.
Oh, ouais. Bah, je ne m'attendais pas à ça.
Ouais, non, mais moi non plus.
Pourquoi ? C'est un toc ? C'est par respect ? C'est pour les retrouver ? C'est des outils de travail ?
Je n'ai absolument aucune idée de pourquoi j'ai fait ça, mais j'en ai eu besoin un jour dans ma vie. Je crois que j'avais besoin d'une forme de discipline. Et du coup, j'ai tout rangé de façon alphabétique. Donc, c'est très, 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 très chiant, hein, mais c'est la réalité.
C'est très rare, les bibliothèques rangées par ordre alphabétique, croyez-en mon expérience. En revanche, ce qui est très compliqué quand c'est le cas, c'est pour en ranger de nouveaux. Parce qu'en général, au moins la première étagère est blindée. Et donc, il faut tout décaler pour pouvoir mettre un nouveau C, par exemple.
Non, mais c'est une gymnastique, mais j'ai quasiment que ça à faire. Donc, donc ça va, pour l'instant, je m'en sors, mais effectivement, il y a des...
Il y a quoi dedans ? Il y a Bukowski, il y a Fante ?
Les deux. Bukowski, c'est... Enfin, moi, j'ai presque... Alors, le tout... Enfin, moi, c'est-à-dire qu'à jusqu'à 15 ans, j'avais lu le Club des 5 et France Football, et ça m'allait très bien. Et puis, j'ai découvert ensuite les Chroniques de l'asphalte de Samuel Benchetrit, qui est une sorte de Club des 5, mais qui se passe dans une cité du 94. Et moi, j'étais un voisin de Seine-Saint-Denis, donc ça m'a beaucoup plus parlé. Et puis ensuite, j'ai découvert Bukowski, et je me suis dit, ah d'accord, on a le droit de faire ça dans les livres.
On a le droit d'aller si loin.
On a le droit de... Et moi, j'étais déjà très curieux de tous les milieux interlopes, des milieux de la nuit. Et ça a été un véritable coup de foudre parce que je, profondément, je savais pas que c'était possible de ne pas mettre les nœuds des négations pour que les phrases soient grammaticalement correctes, d'expliquer qu'on pouvait gerber dans son évier après avoir fréquenté une fille de joie de 120 kilos. Enfin, et je me suis dit, c'est OK, ça, on a le droit de faire ça. Alors, c'est très, 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 parfois très immoral, très, très violent, mais ça a été une véritable rencontre. Et sinon, il y a Franz Bartelt que j'adore, il y a Jean-Paul Dubois, il y a quelques écrivains fétiches que j'admire.
Comme Bukowski qui explique que quand il a découvert Fante dans une bibliothèque, c'était comme trouver un lingot d'or au milieu d'un dépotoir.
Ah, je ne la connaissais pas, mais effectivement, c'est une belle formule.
Eh bien, on va la remplir encore un peu, cette bibliothèque. Nous partons chez Sandrine Babu, notre libraire.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre, le retour de la vengeance. Direction la librairie L'Instant, dans le 15e arrondissement de Paris, chez Sandrine Babu. Bonjour Sandrine.
Bonjour Nicolas.
Merci de nous accueillir dans la librairie L'Instant. Trois livres aujourd'hui, donc il faut qu'on se dépêche. Deux grands formats et puis un poche, un pocket. On commence par un livre très intéressant, avec un titre très intéressant aussi. Torre Molinos, c'est chez Lattès, de Cécile Maître Chabrol.
Tout à fait. Alors, c'est que le titre est un peu intriguant, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. En fait, Cécile Maître Chabrol, c'est la fille adoptive de Claude Chabrol. Et dans ce livre, elle va nous raconter sa vie déjà en tant que petite fille, adolescente. Et elle a une écriture vraiment très drôle, très aiguisée, vraiment très sympa. Et elle va donc nous plonger aussi dans le milieu du cinéma de Claude Chabrol et des années 70, 80. C'est vraiment passionnant. Et ce qui est bien aussi, c'est la façon dont on va parler de son père naturel et de son père adoptif. Et c'est très touchant, la façon qu'elle a d'évoquer ses figures paternelles. Donc vraiment un ton, c'est drôle, on sourit, on est ému, c'est vraiment une belle découverte.
Mais il faut aimer Chabrol ou ça se lit comme ça ?
En fait, ça peut se lire même si on n'aime pas Chabrol, même si on connaît peu Chabrol, ce qui serait dommage, mais les deux lectures sont possibles.
Et ça s'appelle Torre Molinos, j'imagine qu'on découvrira pourquoi ça s'appelle comme ça en lisant
Exactement.
Le livre. Ensuite, un très beau livre du Nouvel Attila, qui s'appelle « Pour que je m'aime encore ».
Tout à fait. Alors, Mariam Majidi, qui avait écrit « Marx et la poupée », si je ne m'abuse, que je n'ai pas lu, mais que je vais me prêter pour le lire, écrit donc « Pour que je m'aime encore », où elle va raconter l'itinéraire d'une jeune adolescente en banlieue. Elle va nous raconter avec beaucoup de drôlerie, elle aussi, l'adolescence et ses problèmes, et on ne ressemble pas à ce qu'on voudrait ressembler, et on a trop de poils, et avec les garçons c'est compliqué. Elle raconte aussi comment elle veut s'évader de cette banlieue, et elle va se retrouver dans une prépa d'un lycée parisien, et ça va être un choc, pour se dire finalement, à quel milieu j'appartiens, qu'est-ce que je veux, où sont mes valeurs. Et ces valeurs, mais ce ne sera peut-être pas Paris, ce sera peut-être autre chose. C'est très, très enlevé, très drôle et vraiment une belle surprise, ce livre.
Pour que je m'aime encore. Et puis donc, il y a ce poche-là.
Alors, ce poche, donc, il vient de sortir en poche, qui s'appelle Les Graciers, de Kieran Millwood Hargrave, qui nous plonge alors, en Norvège début 17e. Donc là, c'est hop, le grand saut.
Rien à voir.
Rien à voir. Alors moi, je ne suis pas très roman historique, je dois avouer. Mais alors celui-ci, il est exceptionnel. On est dans un petit village de pêcheurs. Tous les hommes meurent en mer parce qu'il y a une tempête. Ce qui paraît curieux aux yeux de certains, notamment aux yeux de l'inquisiteur, enfin en tout cas des représentants de l'Église catholique, qui vont dépêcher un inquisiteur pour aller un peu faire le ménage et éventuellement faire une chasse aux sorcières. Et donc on va s'intéresser à la fois à la jeune épouse de cet inquisiteur, qui est mariée contre son gré, et aux femmes du village. Donc ça donne un livre historique, féministe, avec une intrigue incroyable. Très très bon roman historique.
Les Graciers de Kieran Millwood Hargrave, et c'est chez Pocket, voilà, et on a dit...
C'était chez Robert Laffont avant d'être chez Pocket.
Et le traducteur ou la traductrice?
Alors, c'est Sarah Tardy.
Parfait, et on a dit donc Mariam Majidi au Nouvel Attila pour que je m'aime encore, et Cécile Maître ou Mestre, je ne sais pas, Cécile Maître Chabrol, Torre Molinos, c'est chez Lattès. Merci beaucoup Sandrine.
De rien, merci Nicolas.
À bientôt. Retour à Europe 1, toujours avec Florent Oiseau et Héloïse Goy qui nous a rejoint. Florent Oiseau, je vous présente Héloïse Goy.
Bonjour.
Pour sa chronique jeunesse.
Enchanté.
Bonjour Héloïse.
Bonjour Nicolas.
Vous nous parlez d'animaux aujourd'hui.
Tout à fait, je vous parle d'un livre qui s'appelle Les animaux ont d'incroyables talents. C'est signé Didier Barrault, Christian Demilly et les illustrations sont de Stéphane Kiel. Alors je vous en parle parce que je ne sais pas vous, mais moi, comme beaucoup d'enfants, j'adore les animaux. Ça m'amuse toujours beaucoup d'apprendre des anecdotes improbables sur eux parce qu'il y a toujours moyen d'être étonné. Alors ici, on est gâtés parce que ce livre illustré nous raconte 21 histoires fascinantes. Et ce qui est génial, c'est qu'on découvre que parfois les animaux sont autant, voire plus ingénieux que les humains. Par exemple, Nicolas, est-ce que vous savez de quoi est capable le macaque japonais ?
Monter aux arbres ?
Non, mais ça, c'est pas très ingénieux. En fait, comme nous, ces singes, ils nettoient leurs aliments. Et pour la petite histoire, en 1953, on a observé sur l'île japonaise de Koshima qu'une femelle macaque nettoyait une patate douce dans de l'eau de mer avant de la manger. Donc, je sais pas si c'était pour des questions d'hygiène ou si elle voulait mettre un petit peu de sel sur sa patate douce, peut-être. En tout cas, les scientifiques pensent que cette femelle a imité les humains en les observant. Et ce qui est rigolo, c'est que depuis, tous les singes de cette petite île se sont mis à laver leurs aliments. Génial. En imitant cette femelle. Alors on continue, je vous pose une autre question. Selon vous, quel est l'animal le plus fort du monde ?
Ouais, j'imagine que c'est un tout petit truc, genre la fourmi ou un truc comme ça, proportionnellement à sa taille.
Je ne m'attendais pas à ce que vous me disiez ça, mais ce n'est pas ça. C'est...
D'accord.
C'est un petit peu moins glamour. Je pensais que vous alliez me parler de lion, d'ours. Non, non, c'est un peu moins glamour que tout ça parce qu'il s'agit du bousier.
Alors, c'est tout petit, un bousier.
Oui, c'est tout petit, mais c'est moins glamour qu'une fourmi quand même.
Ouais, d'accord.
Parce que vous savez,
c'est sur la bonne piste.
Oui, vous étiez sur la bonne piste, mais vous savez, les bousiers, c'est cette sorte de petit scarabée qui passe son temps à déplacer des excréments. Et en fait, ils les déplacent parce qu'ils y vivent et ils s'en nourrissent. Donc voilà, c'est ragoûtant. Et surtout, tenez-vous bien, le bousier est capable de déplacer une masse équivalente à 1200 fois son poids. Je vous laisse imaginer ce que ça ferait à notre échelle. Et c'est pas tout, parce que des scientifiques ont observé que cet insecte pouvait survivre quand on lui roulait dessus avec une voiture. Donc, en fait, c'est que sa carapace, elle est constituée c'est une sorte de puzzle super puissant qui est quasiment incassable.
Il y a plein de romans là-dedans, hein, Florent Oiseau. Il y a plein
non, mais je suis en train de prendre des notes.
Mais ça, c'est un livre pour enfants ou ça vous plaît à vous ?
Alors, déjà, effectivement, ça me plaît beaucoup, mais j'ai quand même voulu vérifier auprès de Mathilde, 9 ans, si ce livre sur les animaux l'intéressait également.
Bah, c'est vraiment très bien fait. Et que, par exemple, je ne savais pas que la mésange bleue, elle pouvait ouvrir des bouchons de bouteilles en plastique avec son bec. Bah, c'est drôle, ça ressemble un peu à des humains. Il parle aussi de concombre de mer. Bah, ils disent que c'est moche, et ça ne sait pas nager. Son nom est vraiment nul et ridicule, mais pourtant, il est très utile.
Voilà, je vous laisse donc découvrir dans ce livre pourquoi le concombre de mer est très utile à la planète. Vous apprendrez aussi qu'un corbeau a l'intelligence d'un enfant, d'un humain de 3 ans. Ou encore qu'il existe des fourmis infirmières. Vous me parliez de fourmis tout à l'heure, alors on connaît les guerrières, on connaît d'autres types de fourmis.
Les ouvrières.
Les ouvrières, et il existe aussi des fourmis infirmières. En tout cas, Mathilde, elle est restée plongée dans cet album documentaire un bon bout de temps. J'ai eu du mal à l'en décrocher. Il faut dire que les informations qu'on y trouve, elles sont tellement incongrues qu'elles sont souvent drôles. Et les illustrations sont très réalistes, on dirait parfois des photos.
Oui, c'est ce que j'allais dire, il y a des beaux dessins aussi.
Très très beaux dessins.
C'est pas une encyclopédie sur les animaux.
Non, non, c'est beaucoup plus ludique que ça. Et puis encore une fois, c'est très drôle. Je pense vraiment que cet album, il amusera autant les enfants que les parents.
Les animaux d'incroyables talents, Didier Barrault, Christian Demilly, c'est chez Casterman. Merci beaucoup.
Merci Louise Nicolas.
Les fruits tombent des arbres, ça c'est votre nouveau roman chez Alary Éditions. Merci beaucoup Florent Oiseau.
Merci Nicolas Caron.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci aussi à Agnès Vaudin pour son aide, à Boris Pachinski, l'homme aux doigts de fée, et à Grégory Delpech pour la programmation musicale. Justement, rendez-vous avec Didier Barbelivien maintenant pour Dis-moi ce que tu chantes. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Caron.